J'aime bien comprendre, mais pour comprendre, faut travailler beaucoup. Voilà, donc je crois que je travaille beaucoup.
Et c'est pas naturel.
J'en sais rien, ce mot-là, je me méfie beaucoup de ce mot-là, vous savez, je l'utilise jamais, le mot naturel.
Bonjour, que pensent les femmes du bonheur? C'est le titre de la conférence de Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, programmée dans le cadre des lundis philo du Pianoctel de Bouguenay. Accompagnons Geneviève Fraisse dans la rue.
Les chercheurs américains ont découvert qu'un allèle, donc c'est un gène mutant, du bien-être était présent dans le corps humain. Celui-ci ne fonctionnerait que chez les femmes.
J'ai rien à dire à ce genre de truc. Parce que là, c'est vraiment pour faire tourner la machine à fantasmes, très bien. Bah, qu'elle tourne la machine à fantasmes, moi j'ai autre chose à faire.
Vous ne trouvez pas que c'était une bonne introduction?
Très bien, hein. Faites pas de soucis.
Je suis tombé sur cette étude.
Oui, je comprends, mais moi, tout ce qui serait pour dire les hommes sont ci, les femmes sont ça, je n'ai rien à dire sur ce sujet-là, notamment parce que, par ailleurs, dans mes travaux, j'explique que tout ça, c'est une catégorie vide. Donc, je ne vais pas la remplir en disant oui, non à des affirmations qui voudraient remplir ces cases-là. Moi, je les remplis pas. Je suis dans ma logique propre. Quand je vous réponds, je pense rien.
Alors, j'ai une autre citation de Kierkegaard.
Je suis désolée d'être décevante. Hein.
À chaque femme correspond un séducteur. Son bonheur, ce n'est que de le rencontrer.
J'avais une autre citation de Kierkegaard qui est l'exergue de son deuxième tome du deuxième sexe et qui est « Quel malheur d'être une femme ». Et c'est encore la question est de savoir si elle connaît ce malheur, quoi. Qui est une vraie question de philosophe qu'ils ont aussi au XVIIIe siècle et pas seulement au XIXe. Toute ma vie de travail, j'ai essayé employée à ne pas tomber dans la dénonciation de la misogynie des philosophes, qui est un sujet qui ne m'intéresse pas beaucoup, qui ne m'intéresse même pas du tout. En revanche, j'ai essayé de construire l'organisation, l'insertion de la question qui m'intéresse, femmes, hommes, sexe, égalité, etc., à l'intérieur de l'ensemble de leur système. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi ça renvoie quand on a une citation comme ça, en général plutôt méchante ou négative concernant le sexe féminin, c'est de voir comment ça structure la pensée d'un philosophe, en quoi ça participe de la structure de la pensée d'un philosophe. Kierkegaard, c'est le penseur du désir, hein. Donc c'est de là qu'il faudrait repartir. Hein. C'est-à-dire, pour commenter cette phrase-là, c'est-à-dire dans les roses philosophes et dans les roses tout court, comment ça se distribue chez Kierkegaard, la question de la séduction, mais aussi de l'émancipation, hein, ou de comment c'est en train de bouger dans l'histoire du 19e siècle, toute cette affaire, ce dont il est tout à fait conscient. Donc voilà, moi, ce serait plutôt restituer des logiques qui permettent de nous entraîner dans une connaissance philosophique de cet objet, sexe, genre, femme, etc.
Sans refaire la conférence, les trois grands points que vous avez abordés.
Ben, la conférence avait un titre impossible et improbable, qui tenait à un échange de mails entre la thématique de l'année et mes compétences. Et cette mauvaise question qui était posée était porteuse de beaucoup d'interrogations. C'était « Que pensent les femmes du bonheur ?» Donc c'était le mot « penser » qu'il fallait mettre évidemment en premier. Et ça m'a fait revenir à... Je suis partie de deux anecdotes. Je ressasse, on va dire, je cherchais le mot. Celle qui est une citation de Madame de Staël, extrêmement connue et tronquée, en permanence tronquée, qui est « La gloire et le deuil éclatant du bonheur ». Il se trouve que cette citation, « La gloire et le deuil éclatant du bonheur », chez Madame de Staël, qu'on croit, elle est même chez Godard, hein, qu'on croit adressée à Napoléon, tout ça est faux. C'est dans De l'Allemagne, dans un livre de Madame de Staël, et en fait la vraie citation c'est « La gloire est » pour une femme, le deuil éclatant du bonheur. Donc c'est une sexuation du problème. Donc voilà, ça c'est la première anecdote à partir de laquelle je suis partie dans d'autres textes. Et la deuxième, c'était cette citation de Kierkegaard sur « Quel est le savoir sur le malheur des femmes ?»« Femmes que je vous plains, dit Diderot, mais il n'est pas le seul. » Donc il y a entre le savoir du malheur des femmes énoncé par les philosophes pour mieux réassurer que tant pis, ça sera comme ça. Et par ailleurs, le basculement qui se fait autour des années 1800, quand finalement les femmes vont aussi énoncer à la fois la souffrance, à la fois la possibilité du bonheur par rapport à la souffrance. On a ça dès Julie de Lespinasse et Madame du Châtelet, en plein 18e siècle donc, enfin deuxième moitié, oui, en plein 18e siècle. Et puis cet énoncé qui va être très fort chez Madame du Châtelet et chez Madame de Staël, qui est « Seule l'étude, parce que ça dépend de nous, seule l'étude peut nous donner du bonheur, tout le reste, ça dépend des conditions extérieures. Donc nous les femmes, l'étude est un très très grand refuge. » Et c'est très beau, l'étude qui calme les orages du cœur, ou des, comme dit Madame de Staël, des choses comme ça. Et alors pourquoi ça ne m'intéressait pas pour en faire un énoncé définitif? Mais parce que deux siècles plus tard, une femme comme Simone de Beauvoir, elle va dire le contraire. Elle va dire « Je n'ai pas comme point de départ la souffrance, je n'ai pas exprimé ma souffrance, je suis dans la pure jouissance. Je nais et j'ai juste envie de tout. » Et ça passe aussi par l'étude. Alors, la question n'est pas de dire que c'est toute société confondue, mais c'est à travers simplement la question qu'on avait posée pour la soirée, qui était « Que pense ?» qu'est-ce qui se joue de l'ordre de la pensée dans le rapport au bonheur? Et ce qui est intéressant, de mon point de vue, dans la lecture que je fais de Simone de Beauvoir, c'est qu'elle, elle part de la jouissance et non pas de la souffrance. Et la souffrance, c'est ce qui est extérieur. C'est le mal et la mort, donc ce qui est extérieur à l'être, mais ce n'est pas ce qui est de l'intérieur de l'être. On n'est pas dans la psychologie, quoi, en gros, ni dans le sensible, comme au 18e ou dans le tournant du 18e, 19e. Alors, le balancier que j'ai fait entre les textes d'hommes qui n'exprime pas que le désir de domination, c'est-à-dire les mauvaises phrases qu'on cite tout le temps, mais qui exprime aussi qu'ils savent le malheur des femmes, hein, Diderot, Voltaire, même Rousseau. Et par ailleurs, l'idée qu'ils se font de ce que les femmes peuvent ou ne doivent pas savoir de ce malheur. C'est ce qu'il y a chez Kierkegaard, le côté, disons, du discours masculin et l'émergence d'un discours féminin, qui va franchir des étapes comme ça dans le rapport entre souffrance et jouissance. Alors après, vous mettez le bonheur que vous voulez hein, sur le curseur entre souffrance et jouissance. Ça, c'est une cuisine qui relève des individus. Mais voilà, c'était un petit peu montrer cette complexité de faut-il savoir ou ne pas savoir? Parce qu'il y a aussi, par exemple, même dans des discours du XXe siècle, j'avais pris aussi les textes d'Elfriede Jelinek, l'écrivaine autrichienne contemporaine, c'est... Au fond, que savons-nous? Que désirons-nous savoir? Que déguisons-nous de notre savoir dans tout ça, dans toute cette affaire? Voilà, donc c'était pour ne pas énoncer, en tout cas, aucune règle de vie, comme on faisait dans l'Antiquité, je ne sais pas, Sénèque ou Cicéron, sur le bonheur. Je n'ai pas de règle de vie à énoncer, c'était juste pour montrer à quel point ça avait un rapport, la question du bonheur et la question du savoir, qui soit pas seulement le savoir livresque, mais le savoir de cette affaire entre les femmes et les hommes. Quoi.
Que pensent les femmes du bonheur ?
Non, j'en sais rien, je sais pas.
Que pensent les femmes du bonheur?
Je sais pas.
On y a tout droit.
Ah ben bravo.
On y a tout droit,
je sais pas, tout simplement. Voilà.
Je crois que j'ai rien à rajouter.
Vous avez le sentiment que...
Oui, je pense qu'il y a des femmes qui s'enferment dans le... Voilà, qui s'excusent un peu d'être heureuses, quoi. Donc...
Qui pensent que c'est pas pour toutes. Je crois que votre phrase est formidable.
Parce que j'ai eu l'occasion moi, de discuter avec... c'est une personne de ma famille qui rencontre beaucoup de problèmes personnels avec son conjoint. Et je lui ai expliqué qu'elle avait le droit au bonheur comme tout le monde et qu'il fallait qu'elle s'excuse, qu'elle arrête de s'excuser et qu'elle arrête de se sentir coupable de la situation dans laquelle elle était et qu'il fallait qu'elle prenne, sa vie en main et qu'elle avait le droit au bonheur comme tout le monde. Quoi. Donc maintenant, Voilà, je pense que c'est bien résumé, on a tout le droit au bonheur. Enfin, tout être humain d'ailleurs.
Et ça veut dire que celles qui se disent qu'elles n'ont pas le droit au bonheur, même si elles ne se sentent pas coupables de rater telle ou telle union, en fait, il y en a qui se disent qu'elles n'ont pas droit au bonheur, quoi. J'aime beaucoup votre réponse.
Il y a un ami qui m'a dit la dernière fois, notre liberté, c'est notre capacité à nous enchaîner. Et, et je trouve que c'est assez bien dit, c'est-à-dire que c'est finalement quand on fait des choix, c'est justement là qu'on est heureux, en fait, c'est quand on fait des choix.
Quand vous témoignez que les femmes ont à combattre pour dire qu'elles ont droit au bonheur, ça suggère quoi ?
C'est des siècles et des siècles d'habitudes, d'éducation.
Ouais, je pense. De mœurs, ouais, tout à fait. Mais je lisais un truc hier sur justement, bon après c'est, je reviens sur une polémique qu'il y a eu il n'y a pas longtemps sur le mariage pour tous, où en fait ils sont au vu du sexe et pas du genre, et donc ils avançaient beaucoup sur le sexisme, etc., parce qu'il y a l'histoire de l'IVG en ce moment, etc. Et effectivement, en fait, on voit bien qu'on avait des pubs à l'époque, des pubs Lego, où on avait les petites filles qui jouaient avec des camions, etc., et aujourd'hui c'est les poupées Barbie pour les jeunes femmes. C'est pire qu'avant, exactement.
C'est pire qu'avant.
Ah, oui, c'est pire qu'avant.
C'est pire qu'avant.
Ouais, moi,
vous voulez que je vous raconte une anecdote absolument extraordinaire, c'est-à-dire avec mon âge certain, on va dire. Je vais m'acheter il y a quelques mois une paire de baskets pour le cours de gym où je m'inscris, dans une grande surface. Et j'ai une pointure qui me permet aussi de me servir au bout de gondole des enfants,
ouais.
Hein, 37, ça. Et je remarque une magnifique paire avec des bandes bleues que j'attrape. Et à ce moment-là, le vendeur me dit « Mais madame, vous n'avez pas vu qu'il y a des roses ?» Alors, je veux dire, j'ai pas 5 ans, j'ai pas 8 ans, j'ai pas 12 ans. Et j'adore la coupe préférée, moi aussi. Et quand même, donc, effectivement, c'est-à-dire, on peut aussi imaginer, en dehors de toutes ces questions idéologiques, que c'est une pratique commerciale, et que c'est pas bien toutes ces images qui flotteraient dans l'air et qui seraient déconnectées d'une réalité matérielle. C'est qu'en fait, on fait du commerce avec ça aussi. Et il était tellement ridicule, mais il s'est même pas rendu compte qu'il était ridicule en me suggérant que je pouvais peut-être prendre les baskets roses à mon âge.
Il vous disait aussi que vous aviez le choix entre les bleus et les roses.
Oui, ce qui fait partie du commerce. C'était son rôle de commerçant. Mais en même temps, si j'avais pris les roses, il n'aurait peut-être pas dit « Vous pouvez aussi prendre les bleus. »
Ouais,
donc on est entre commerce et idéologie, là.
Moi, j'ai un autre argument, c'est ce serait bien assorti avec le manteau.
Ça, c'est ce que j'avais dit aussi. Qui est couleur rose.
Vous trouvez qu'il est rose? Moi, je le vois...
Alors vas-y, toi tu connais
le. Il est principalement rose, mais il a des notes bleutées quand même, dans le fond. Il est...
Bon, voilà que j'ai un manteau rose. Mais j'ai un sac bleu. Ainsi que des gants bleus. On assiste à une crispation autour de ce terme, avec la chose la plus drôle pour moi, de mon point de vue cette semaine, c'est que d'un côté c'est halte à la théorie du genre, mais il n'existe pas de théorie du genre. Donc il n'y a pas de théorie du genre, on est tranquille. Donc d'un côté on a ça, mais de l'autre, ils sont pour les mêmes, c'est des petits papillons qui avaient des petits tracts de cette semaine, pour qu'on conserve les stéréotypes de genre. Donc le mot genre, il l'introduit, alors qu'il devrait l'exclure comme le mot qui les gêne, en même temps ils le réintroduisent pour dire que si c'est pour stratifier les choses, on est d'accord. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive à produire une confusion, on rajoute de la confusion à la confusion. C'est ça qui politiquement est intéressant pour moi.
Une petite fille, j'ai aujourd'hui ça sur Facebook, il y avait une, je sais pas, c'était une sorte d'image avec, enfin c'était une sorte de BD, où il y avait une petite fille qui disait « Papa, maman, la maîtresse, elle a dit que si je travaillais bien à l'école, je pouvais devenir chef d'entreprise. » Et il y a sa mère qui jette tous ses plats qu'elle avait dans les mains en disant « Oh mon Dieu, notre fille a attrapé le gender. » Et donc, il y a le...
Voilà, c'est un virus.
Et son père qui dit « Oh, saloperie d'école publique. » Voilà, encore que la maîtresse est encore en train de nous balancer la théorie du genre.
Oui. Non, mais c'est l'image du virus. Ouais. C'est pour ça qu'ils peuvent l'employer de manière contradictoire, mais y compris chez ceux qui l'utilisent aussi maintenant académiquement. C'est-à-dire, mais un mot qui va devenir important dans la langue, c'est aussi un mot qui introduit de la polysémie.
Encore.
Donc voilà, suite à... Dans 20 ans, par exemple.
Parce que ce mot sera devenu...
Merci,
bonne journée,
bonne journée, ouais, merci, au plaisir.
Au revoir.
Ouais, on va par là.
On va par là.
Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, est l'invitée du magazine. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public nantais ?
Mais d'abord, moi, je marche beaucoup dans les villes. D'abord, j'aime ça. Quand je vais à l'étranger, je pars tout droit dans les villes. Je me garde toujours du temps. Je pars tout droit dans les villes jusqu'à ce que j'en puisse plus. Puis parfois, je reprends le métro ou un taxi pour rentrer là où j'habite, parce que je suis allée tellement au bout que je ne vais pas refaire le même chemin dans l'autre sens. Mais donc, marcher dans la ville, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je parle assez facilement aux gens dans la rue, non pas comme avec vous, mais je veux dire à travers, je sais pas, un commerce, un passage de métro ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est l'espace public, quoi. Moi, j'aime bien l'espace public. L'espace public, c'est tout, c'est l'individu et le collectif. Donc moi, je me sens bien.
C'est pas une étude ni sociologique ni statistique.
Oh, grâce au ciel.
Mais on voit que ce sont des idées qui amènent à réflexion auprès du grand public.
Complètement, bien sûr. On prend toujours les gens pour des cons. Mais on a tort. Dans la génération qui est la mienne, de 68 et de la suite, on a été construit en essayant de penser l'égalité des êtres, quoi. Et que tout le monde pense. Surtout que tout le monde pense. Commencez par les femmes, par exemple. Au cas où on n'aurait pas envie de considérer qu'elles pensent. Comme il arrive encore que certains l'expriment.
Et vous voyez, malgré le jeune mutant, les femmes pensent qu'elles n'ont pas droit au bonheur.
Non, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit à une proche qu'il faut qu'elle sorte de cette représentation-là. Tout le monde a droit au bonheur. Donc elle avait déjà franchi le pas suivant, quoi. C'est ça qui était magnifique dans sa réponse. Vraiment magnifique.
C'est une tentative pour faire de l'humour, pour conclure.
Oui, pour nous. Mais là, il faut que je vous dise une chose. Si vous, ça fait 15 ans que vous marchez, moi, ça fait 40 ans que je discute ces trucs-là. Alors j'ai quelques habitudes, ou j'identifie certaines... remarque avec leur degré d'humour ou de mauvaise foi ou de provocation ou d'amitié que cette chose peut susciter. J'ai un peu de pratique. Ça, je le revendique quand même.
C'était pour activer les neurones. Hein, c'est
je comprends. Non, mais oui, je comprends.
Merci à Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, et merci à Ségolène et Émilie pour leur libre participation à ce reportage, réalisé avec la complicité des lundis philo du Pianoctel de Bouguenay.
On prépare la fin du cumul, donc il va y avoir une répartition sexuée avec cette histoire de la fin du cumul. C'est-à-dire, eux vont aller à l'Assemblée, les hommes font les lois, et on va laisser les femmes faire l'administration locale. C'est comme si c'était écrit. Mais voilà, la bipartition continue toujours à se reproduire, même quand on essaye de la supprimer. La France tient à la symbolique masculine du pouvoir.
Pourquoi une émergence pacane de tête de liste où ce sont des femmes?
Mais parce que c'est le produit de ce qui se passe depuis 20 ans. C'est tout. C'est une sorte de... Mais c'est jamais acquis. L'exemple que j'ai pris récemment, parce que je l'ai lu, c'est que... On devait renouveler 4 personnes au comité à la santé, au commissariat à la santé, je ne sais plus quelle est l'expression, l'intitulé exact. Et il y avait 4 membres qui devaient être renouvelés, qui sont des membres proposés par les présidents des chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Chacun a présenté 2 hommes. Résultat des courses, ce haut commissariat à la santé, il y a 8 hommes sur 8. Donc en 2014. Donc d'un côté, les femmes avancent comme ça, etc. Et de l'autre... La résistance sans conscience, quoi. La résistance par mécanique continue à faire son petit boulot. Donc sur la santé, où on dit ça va être un sujet femme, etc., etc., on a 8 hommes. Comme ça, au moins, on est loin. Donc si vous voulez, moi j'ai une vision très... disons, il faut être subtil, quoi. Hein. C'est pas ça avance, ça recule. C'est quelque chose d'assez... C'est assez complexe en fait.